franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et à la une de la science aujourd'hui, la grande barrière de corail en péril.
Une catastrophe écologique est en train de se jouer sous les mers d'Australie. Au moins 35% des coraux du nord et du centre de la grande barrière australienne sont morts ou en train de mourir sous l'effet d'un épisode de blanchissement très grave. Une décoloration, synonyme de dévitalisation, qui est due au réchauffement climatique et à la hausse des températures dans cette zone.
Voilà, extrait d'un journal d'Euronews daté du 30 mai 2016. Et justement, cette année 2016, la partie nord de la grande barrière de corail en Australie qui a été dévastée sur une distance de 700 km, c'est un tiers de sa longueur totale, une véritable hécatombe. Aujourd'hui, une quarantaine de chercheurs annoncent dans la revue Nature que la grande barrière pourrait ne jamais se remettre de cette année noire. Ils alertent aussi sur un nouvel épisode de blanchissement en cours. Et cette fois, tout cela est dû au réchauffement climatique. On en parle avec vous, Jean-Pierre Gattuso. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous travaillez à l'Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer. Comme tous les lundis, Hervé Kempf, le rédacteur en chef de reporter.net, notre partenaire, est avec nous. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
C'est quoi la barrière de corail exactement, Hervé ?
C'est un écosystème vivant absolument extraordinaire. C'est sur 350 000 km² le plus grand récif corallien du monde, au nord-est de l'Australie, et qui est, dit-on, la plus grande structure du monde visible depuis l'espace, structure du monde créée par des organismes vivants. C'est en fait une accumulation de milliards d'organismes minuscules qu'on appelle les coraux polypes et qui sont des animaux à squelette calcaire. Et en fait, l'ensemble du massif, cette grande barrière, c'est une accumulation de ces milliards et milliards de coraux et de squelettes en calcaire. C'est une structure qui est très sensible au réchauffement climatique. Et là, on a vécu effectivement 2016, le troisième épisode de blanchissement, c'est-à-dire de dépérissement des coraux qui conduit à leur mort. Et c'est l'épisode le plus grave, selon les chercheurs dans cette étude parue dans Nature le 15 mars, seuls 9% des coraux auraient échappé au blanchiment cette année.
Ouais. Agnès.
Oui, Jean-Pierre Gattuso, selon l'étude de Nature, justement, la survie de la Grande Barrière dépend aujourd'hui d'une action urgente et rapide pour limiter le réchauffement du climat, rien que ça. Ça signifie que les mesures mises en place pour protéger ces coraux ne fonctionnent pas.
Tout à fait. Il faut, pour solutionner ce problème du blanchissement, il faut régler cette question du réchauffement climatique. Et donc, beaucoup d'entre nous pensions que, en essayant de protéger les récifs, en essayant de limiter les apports de pollution, ça permettait de gagner du temps en attendant que les mesures décidées à la COP21 se mettent en œuvre. Or, la mauvaise nouvelle de cet article que Terry Hughes vient de faire paraître, c'est que, en fait, on voit que la Grande Barrière de Corail, qui est certainement le parc marin le mieux géré du monde depuis les années 70, quel que soit le niveau de protection de ces différentes zones, il y a des zones qui sont totalement protégées, d'autres qui le sont moins, toutes les zones, quel que soit le niveau de protection, ont subi ce phénomène de blanchissement. Donc il semble que la protection, la création de parcs marins ne permet pas de contrebalancer cet effet du réchauffement climatique. Et de la même manière, les récifs sont affectés, qu'ils soient proches de la côte, donc potentiellement soumis à des pollutions d'ordre terrigène, ou qu'ils soient loin de la côte. Tous les coraux sont soumis à ce phénomène de blanchissement. Donc ce qui semble montrer que les actions locales n'ont pas beaucoup d'impact. Il faut absolument que les actions globales, la limitation du réchauffement, se mettent en œuvre le plus vite possible. Oui.
Parce que, alors, qu'est-ce que ça signifie en fait la répercussion de ces épisodes successifs de blanchissement sur les coraux ? Tous ne sont pas morts, mais ils pourraient mourir plus rapidement. C'est ça.
Les coraux, en fait, si le stress de température est suffisamment court, les coraux blanchissent, donc expulsent leurs algues symbiotiques dont ils ont absolument besoin pour survivre, mais ils parviennent à les récupérer des algues si le stress est suffisamment court. Or là, on arrive à une étape où on a presque tous les ans des phénomènes de blanchissement, et donc ça laisse penser que le temps de récupération entre deux phénomènes de blanchissement devient de plus en plus court et il n'y a pas de récupération qui va être possible.
Hervé, quelles conséquences aurait la mort de cet organisme géant ?
Alors les services rendus par les récifs coralliens sont extrêmement nombreux. D'une part, ce sont des zones où la biodiversité est parmi les plus importantes dans le milieu marin. Donc il y a beaucoup de poissons qui viennent se reproduire dans des récifs et vont ensuite mener leur vie d'adulte à l'extérieur, et donc c'est des ressources pour la pêche. Un autre service que nous rendent les récifs coralliens, c'est la protection des rivages de l'érosion, de l'action destructrice des houles et des vagues, des cyclones. Un récif en mauvais état ne protège plus la côte. Et enfin, les ressources économiques qui sont tout à fait importantes, notamment sur la Grande Barrière de Corail. Hein, beaucoup de plongeurs, il y a 2 millions de personnes qui viennent visiter la Grande Barrière de Corail par jour. Ça représente beaucoup d'emplois et ça fait vivre beaucoup de monde. Et donc, tous ces bénéfices risquent d'être perdus si la Grande Barrière de Corail perd cette image de merveille de la nature.
Outre ces répercussions du réchauffement climatique sur la Grande Barrière de Corail, est-ce que la hausse des températures a d'autres effets sur l'environnement en Australie ?
Et oui, beaucoup. Il y a quelques mois, on a vu que durant l'été austral, les températures en Australie ont atteint des records, hein, 47 ou 48 degrés. Et donc ça a créé aussi une mortalité massive en 2016 des mangroves du nord-est de l'Australie, dans le golfe de Carpentarie, où 6% des mangroves sont mortes de cet effet de la température et aussi d'un phénomène qui est lié à El Niño et qui fait que le niveau de la mer a légèrement baissé d'une quinzaine ou une vingtaine de centimètres, ce qui a fait que les mangroves ont manqué d'eau. Il y a aussi des mortalités massives d'invertébrés qui ont été observées en Australie occidentale. Donc l'Australie, oui, c'est un pays qui est vraiment extrêmement affecté par ces changements climatiques et cet impact des
ouais. Jean-Pierre Gattuso, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle quand même cette publication, parce qu'on voit bien que le processus de réchauffement climatique, il est extrêmement long à freiner et aller dans le sens inverse justement d'une augmentation des températures, c'est pour l'instant quasi impossible. C'est-à-dire qu'on parle vraiment sur des décennies et des décennies, donc c'est pour cette barrière de corail en tout cas très très inquiétant, non ?
Absolument, c'est très inquiétant. On voit que je parlais tout à l'heure de l'accord de Paris, dont l'objectif est de limiter le réchauffement à 1,5 degré, et, si possible, et à 2 degrés. Mmh. Et on voit qu'aujourd'hui, dans beaucoup de zones du monde, on est à plus 1,2, et donc on est très très proche de ce seuil de 1,5, et on a déjà des manifestations extrêmement inquiétantes de l'impact du réchauffement, et donc quand on considère aussi le fait que certains pays qui étaient très engagés dans l'accord de Paris, comme les États-Unis, semblent vouloir s'en désengager, tout ça, ça fait peur, oui.
Hervé,
le Premier ministre australien est très favorable à l'industrie du charbon. Est-ce que vous pensez que ce que vous venez de nous expliquer sur la mangrove, ce qu'on vient d'apprendre sur la Grande Barrière de Corail, peut le faire évoluer ?
Alors je sais pas, je suis pas très au fait de la politique en Australie. Ce que je sais, c'est que l'Australie en fait a un double langage, c'est-à-dire qu'elle s'est démenée de façon incroyable il y a 2 ans pour éviter que la Grande Barrière de Corail, qui est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, soit déclarée en danger, ce qui serait une mauvaise image pour l'Australie. Et donc le gouvernement s'est activé contre ça. Ils ont réussi, la Grande Barrière n'a pas été listée comme en danger, mais elle risque de l'être, je pense, très prochainement. Donc d'un côté, on se préoccupe de la Grande Barrière, mais d'un autre côté, le gouvernement australien continue à exploiter de façon incroyable les mines de charbon. Ils viennent de donner un permis à une société indienne pour exploiter une mine gigantesque dans le Queensland. Et donc l'Australie, de cette façon-là, aussi contribue à renforcer le réchauffement climatique. Donc il y a une sorte de double langage qui est vraiment pas très sain, je trouve.
Jean-Pierre Sauvage, est-ce que vos machines moléculaires pourraient justement aider à l'environnement d'une façon ou d'une autre dans les applications possibles, probables ?
Ah, mais nous espérons qu'elles aideront à des tas de choses importantes. Mmh. Disons, la première idée qui me vient, c'est dans le domaine de l'informatique.
Oui.
Et vous savez que l'informatique est extrêmement énergivore. Disons, tous les systèmes de stockage, de manipulation de l'information consomment énormément d'énergie.
Oui.
En même temps, il faut les refroidir.
C'est ça, parce que absolument.
Ça coûte encore plus cher, en énergie pour les refroidir.
Les data centers, par exemple.
Voilà, les data centers. Donc, avec des machines moléculaires qu'on pourrait utiliser pour stocker et manipuler l'information,
ouais.
Donc faire des systèmes mémoire, on pourrait espérer avoir des techniques très douces, disons beaucoup, beaucoup moins énergivores.
Bon, Jean-Pierre Gattuso, on prend ça, hein, on en prend bonne note en tous les cas, effectivement. Et puis, en attendant, on peut lire cette publication peu réjouissante, on l'a compris, dans la revue Nature, et on retrouvera des informations sur reporter.net également, Hervé. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Pierre Gattuso.
Merci, au revoir.
Bonne journée et à demain Agnès.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un fleuve néo-zélandais reconnu comme une entité vivante, le Whanganui, fleuve sacré pour les Maoris, a été doté d'un statut juridique. La décision a été entérinée par le Parlement néo-zélandais la semaine dernière. Désormais, le fleuve pourrait être défendu au sein d'une cour de justice comme un humain. Il sera représenté par deux personnes issues respectivement du gouvernement et de la tribu Maori qui porte le même nom que le fleuve. C'est le résultat d'une longue lutte de cette communauté dont le bien-être estime-t-elle dépend directement de celui du fleuve. Les pans bleus mâles lorgnent davantage sur les mâles que sur les femelles en période de reproduction. C'est ce que suggère une étude américaine qui a utilisé un système de suivi du regard sur les pans bleus. Ils passent presque 28% de leur temps à observer les autres mâles contre seulement 3% à regarder les femelles. Mais il ne s'agit pas de draguer, plutôt de se comparer. Ils font particulièrement attention au plumage de leurs rivaux, leur principal atout pour séduire les femelles, mais aussi aux pattes puisque c'est avec elles qu'ils se battent en cas de compétition. Et puis enfin, la planète Vénus, visible en plein jour et à l'œil nu pendant encore quelques jours, elle sera facilement repérable à l'aube et au crépuscule. Le 25 mars, elle sera parfaitement alignée entre le Soleil et la Terre. D'ici là, l'étoile du Berger va se rapprocher de notre planète de plusieurs centaines de milliers de kilomètres chaque jour. Pour ceux qui voudraient tenter l'observation, au matin, regardez vers l'est, à gauche du Soleil, quelques minutes avant son lever. Et le soir, c'est à l'ouest que ça se passe. Quelques minutes avant le coucher du Soleil, décalez votre regard vers la droite.